Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Vivante Église pour le retour du grand écran, la série que nous dédions à l'art cinématographique avec encore deux films au sommaire de cette émission. Le premier vient de sortir dans les salles, il est notamment à l'affiche du cinéma L'ABC à Toulouse. Il a pour titre « Furcine et libre » et il a été réalisé par Abdelmalik. La seconde partie de cette émission va être consacrée à « La route », un film tourné en 2009 par le cinéaste australien John Hillcoat, d'après le roman éponyme de Cormac McCarthy. Pour ce nouvel épisode du Grand Écran à Vivante Église, je retrouve mes deux complices cinéphiles, Paul Dima, intervenant cinéma pour les Côtes au Païs, les centres jésuites dans le sud-ouest, et Louis-Marie Solaire, producteur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence. Bienvenue à vous deux et bonne année puisqu'il est encore temps de vous la souhaiter. Je signale en préambule à nos échanges que votre ciné-parole du mois de janvier à l'ABC est prévue mardi prochain, le 20 à 14h30, après la projection de Furcine et libre, le film dont nous allons parler maintenant. Il a donc été réalisé par Abdelmalik, qui s'était d'abord fait connaître comme rappeur, auteur, compositeur, interprète il y a une trentaine d'années. Là, il refait une incursion derrière la caméra. Je dis bien refait parce que ce n'est pas une première pour lui dans ce domaine, Louis-Marie.
Non, il avait déjà œuvré derrière la caméra, vous l'avez dit, Eric, avec l'adaptation de son premier livre, son autobiographie, Qu'Allah bénisse la France, un livre qui était sorti en 2004 et après quoi il l'avait adapté, alors bien plus tard, 10 ans plus tard, c'était en 2014, et où il racontait son parcours et comment il était entré dans la religion, dans l'islam soufi.
Oui.
Et d'ailleurs, Abdelmalik, c'est son nom après.
De converti.
Voilà, son nom de converti, oui.
Son prénom, c'est Régis.
Hein. Oui, parce que je crois que ce qui est en commun entre Malik et Régis,
c'est roi.
Ça veut dire roi.
Ouais.
Voilà, c'est ça. Donc,
absolument.
Il s'appelait Régis Fayette Mikano. Ah, il s'appelle toujours Régis
Fayette Mikano. Il est d'origine congolaise, effectivement, Abdelmalik. Catholique, puis converti à l'islam soufiste. Alors, il est écrivain aussi. Hein,
oui.
Il est auteur de plusieurs livres.
Oui, il a écrit pas mal de bouquins, une petite dizaine, ce qui est
pas si mal, on ne peut pas en dire autant.
Non, oui, effectivement. Son dernier en date n'est pas très ancien, il est de 2023, c'est un hommage à Juliette Gréco, qui est sobrement intitulé Juliette.
Oui, d'ailleurs, aujourd'hui, je pense qu'il est plus écrivain que rappeur, même si, on va le voir, il y a du rap au début et à la fin de ce film.
Oui.
Alors là aussi, Louis-Marie, il s'agit d'adaptation assez libre, hein, d'un livre de l'écrivain et journaliste Mohamed Essaoui, L'affaire de l'esclave Furcy, une biographie de l'esclave Furcy Madeleine, parue en 2010 chez Gallimard. Je crois qu'il avait reçu d'ailleurs le prix Renaudot de l'essai pour ce livre. Et il s'agit donc d'une histoire et de personnages qui ont vraiment existé.
Ah oui, le personnage de Furcy, Furcy Madeleine, en fait c'est le prénom de sa mère.
De sa mère, ouais. Par donc, hommage, en hommage à sa mère.
À sa mère, il s'appelle donc Furcy Madeleine et qui a appris, alors qu'il avait, et on le devine dans le film, qu'il avait appris à lire parce que les esclaves ne pouvaient pas aller à l'école. C'était interdit d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire. Et il a découvert des documents qui prouvaient qu'il était né libre puisque sa mère l'était.
Avait été affranchi.
Avant qu'il ne naisse.
Oui. Alors, précision importante, j'ai dit que c'était une adaptation assez libre du livre de l'écrivain et journaliste Mohamed Essaoui, mais Mohamed Essaoui a coécrit le scénario du film avec Abdelmalik.
Tout à fait. Donc, c'est très documenté.
Voilà, c'est très documenté et on va le voir, c'est très documenté dans beaucoup de domaines. Donc ça, c'est donc l'histoire vraie que raconte Mohamed Essaoui dans son livre et dont s'inspire Abdelmalik pour son film. Nous allons en parler tous les trois dans quelques instants. Dans l'immédiat, je propose que nous écoutions d'abord la bande-annonce de Furcy né libre pour nous mettre un peu dans l'ambiance.
Furcy né libre, esclave maintenu par la cupidité des hommes.
J'ai le droit de circuler librement. Fallait demander au procureur du roi. Silence.
Furcy devrait être libre, car sa mère a été affranchie il y a des années.
Cet acte d'affranchissement, même s'il existe, c'est qu'un bout de papier.
Il dissimulait aussi des liens secrets avec la préceptrice Virginie Béga.
Furcy se retrouve dans la position d'accusé alors qu'il vient réclamer sa liberté.
Les esclaves n'attaquent jamais leur maître en justice.
Un esclave n'est pas une personne. C'est un meuble.
Je retourne travailler. Tu peux reparler le Maurice.
C'est toi, Fursi ? Ferme les yeux quand je te parle.
J'ai réussi à ce que son procès passe à la Cour royale de Paris. C'est moi qui le défendrai.
Je ne vous abandonnerai jamais, Fursi.
Je manie la guerre des papiers. Ces pièces avec un tampon qui sont les seules preuves de la justesse de mon combat.
Tout est organisé pour maintenir ce système en place.
Ils seront prêts à te pardonner si tu acceptes de retravailler pour eux.
Pardonner ? Après toutes ces années de souffrance, cette injustice ?
On a été esclave, on l'est toute sa vie.
Peut-on renoncer à sa liberté ? Peut-on abandonner cet attribut fondamental de l'être humain ?
La bande-annonce de Fursi né libre qui donne un premier aperçu du long-métrage réalisé par Abdelmalik et que nous avons vu mercredi, Paul, au cinéma L'ABC à Toulouse. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce qu'Abdelmalik a fait de cette histoire et des personnages qu'on y croise ?
Il a fait un film très documenté, très fort, qui prend un champ et contre-champ. On a d'un côté l'esclave, réputé esclave, mais qui découvre à la mort de sa mère un document qui prouve qu'elle était libre. En venant sur le sol français, elle devenait libre. Et l'enfant bénéficiait du statut juridique de la mère. Donc, il n'était pas esclave, il était libre. Mais esclave, parce que ce papier, il n'en avait jamais eu connaissance avant. Par contre, il n'était pas tout à fait comme les autres esclaves, parce que lui avait appris à lire et à écrire. Ce qui change radicalement le statut. Parce que dans le statut de 1817, le code noir considérait les esclaves comme des meubles. C'est-à-dire qu'ils n'avaient rien à dire, ils n'avaient rien à apprendre, ils ne devaient que exécuter les ordres de leur maître, y compris des sévices et toutes les brimades qui étaient leur lot. Donc, ce n'est pas un film sur l'esclavage. C'est un film qui parcourt sur plusieurs années.
Sur plusieurs dizaines d'années.
Ah oui, plusieurs dizaines d'années.
Parce que ça commence en 1817.
Hein, 1817, voilà. Oui.
Et ça se termine plutôt vers 1843.
C'est ça. Alors, on voit qu'il y a des changements aussi de politique. Hein. On passe de la royauté.
On passe de la monarchie de
Charles X. De la monarchie, oui.
À la monarchie parlementaire de Louis-Philippe, qui n'est plus roi de France, mais roi des Français.
Mais roi des Français, oui.
À partir de 1830.
Et alors, le film consacre un temps important et sur la condition de l'esclavage et en même temps sur l'évolution du droit. Et ce film rapporte tous les procès, tous les jugements.
L'évolution de la jurisprudence
et
aussi.
L'évolution de la jurisprudence.
Oui. C'est un film très intéressant du point de vue juridique. Je pense que les juristes qui nous écoutent ont tout intérêt à aller voir ce film.
Et Abdelmalik dit « mais c'est mon histoire aussi ». Parce que lui vient
du Congo
et il a vécu dans
sa famille vient du Congo.
Dans la banlieue parisienne. Il dit, mais quelque part, moi aussi, j'appartiens à cette histoire-là. Je suis un black, mais j'ai eu accès, moi aussi, à l'école, à la culture. Et il s'est engagé dans cette voie-là. Et l'objectif de son film, c'est de faire reconnaître le droit de chacun à vivre libre. Et il dit qu'il s'étonne, là je le cite, de ce que les gens qui sont pour la défense de la France, la culture, etc., souvent ne sont pas d'accord pour accueillir sur le sol français, alors que c'est un droit, des personnes qui viennent d'autres pays et obtiennent ipso facto le droit
d'être. Ça c'est l'histoire, droit du sol, droit du sang. Bon.
Oui, droit du sol, droit du sang. Et c'est un débat d'actualité puisque le 19, c'est-à-dire, très très prochainement, à l'Assemblée nationale, le débat portera sur l'abolition du code noir, qui n'a jamais été abrogé. C'est-à-dire qu'il n'est plus, de fait...
Il n'est plus actif, puisque l'esclavage est aboli.
Mais il existe toujours.
Enfin, en tout cas chez nous. Dans certains pays, il n'est pas.
En France, il existe toujours.
Et le code noir, vous voulez dire.
Oui, le code noir.
Pas l'esclavage, m'avait fait peur.
Pas l'esclavage, non. Encore que.
Il y a d'autres formes d'esclavage.
Voilà.
Oui, même volontaire. Je reviens quand même au film, à l'évolution du film. C'est bien fait, C'est vraiment bien fait. Les décors sont très beaux, oui. Parce que c'est tourné sur le lieu de l'action, essentiellement l'île de la Réunion.
L'île Bourbon,
à l'époque. S'appelait l'île Bourbon à l'époque, effectivement. Donc les décors sont très très beaux, la photographie est très belle.
Ouais, ouais.
Et le reste se passe donc en France, en Île-de-France, hein, puisque c'est surtout dans les tribunaux après.
Oui, ouais.
Et ça, je trouve que ce sont les scènes les plus intéressantes pour moi. C'est là qu'il se passe le plus de choses, parce que c'est là qu'évolue finalement l'intrigue, hein, en plusieurs temps, oui. Et sur plusieurs dizaines d'années.
Oui. Alors, il y a trois personnages importants. Donc, il y a Fursi, il y a l'avocat...
Qui est joué par Makita Samba, oui. Qui est d'origine congolaise aussi.
Oui, aussi.
Qui est très bien.
Et dans le film, il y a beaucoup d'acteurs réunionnais.
Oui.
Et il a présenté sa première à La Réunion, parce que Abd al-Malik a des liens particuliers avec La Réunion. Et il l'a présenté et ça a été ovationné là-bas sur l'île de La Réunion à Saint-Denis, je crois. Il y a aussi donc l'avocat qui...
C'est joué par Romain Duris.
Oui, qui se charge de défendre le droit de l'esclave, soi-disant, de Fursi, oui. Et donc on voit toute l'évolution de la jurisprudence au cours de ces dizaines d'années pour que son droit soit reconnu, droit à la liberté. On voit aussi très bien comment... Non pas les négriers, mais les propriétaires d'esclaves.
Oui, puisque ce sont, excusez-moi du terme, pour ceux qui nous écoutent, ils sont considérés comme des biens meubles.
Ah, c'est des
comme
biens.
Comme le sont aujourd'hui encore les animaux, je le signale.
Oui.
Vous avez un chien, c'est un bien meuble. Vous avez acheté un chien, c'est un bien meuble.
Voilà. Et comme ce sont des meubles, ils n'ont pas le droit à la parole, ni à la culture, ni à rien. Et on voit le propriétaire de cet esclave... qui dit, mais tu es mon fils, enfin, tu es dans la famille, tu es...
On a toujours été bon pour toi.
Voilà, on a été bon pour toi, et qui défend en même temps toute la catégorie, enfin, tous les possesseurs d'esclaves. Parce que c'est, derrière, c'est un trouble à l'ordre public.
Oui, c'est pour ça qu'il est d'ailleurs condamné. Voilà,
c'est pour ça qu'il
donné.
Est condamné, oui. Et ça remet en cause toute la...
Et emprisonné.
La structure pyramidale ou hiérarchique d'un État esclavagiste, enfin d'un régime.
À l'époque, l'esclavage, et depuis l'Antiquité d'ailleurs, c'était un moyen de production.
Tout à fait.
C'était le moyen de production d'époque.
Très
ça faisait tourner l'économie.
Oui, il suffit d'aller à Nantes pour voir que...
Ou à Bordeaux.
Oui, ou à Bordeaux aussi. De fait, c'était très 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 rentable. Bah,
beaucoup de fortunes se sont faites là-dessus.
Voilà. Et donc, ça remettait en cause l'ordre des choses, vu de leur côté. Et en même temps, ce propriétaire d'esclaves dit « Mais moi, je suis bien avec toi, enfin, je te respecte et tout ça. » Et il essaie de l'attirer. Et là, Fursi lui crache dans la main et dit « Non. »
Non, lui, il va aller au bout.
Oui.
Même certains de ses amis, y compris sa maîtresse,
oui.
Lui dit « Bon, maintenant que tu es sorti de l'enfer où on t'avait envoyé, tu ne crois pas que tu n'es pas si mal que ça, qu'il faudrait
oui,
arrêter ?»
On peut s'arranger. Tout
voilà. Lui, il va aller au bout, il veut qu'on lui rende justice.
Oui.
Il veut qu'on lui rende justice.
Il veut qu'on lui rende justice.
Et
donc
en fait,
c'est un débat pour le droit d'exister comme homme libre.
Oui. Et en fait, ce qui va le sauver, c'est qu'il va arriver à prouver que sa mère, effectivement, est bien venue en France.
Oui.
C'est chez des sœurs, d'ailleurs, que,
oui.
Parce qu'elle avait été plutôt sa propriétaire de l'époque.
Oui.
Était entrée dans les ordres. Elle était venue avec ses domestiques. Et d'ailleurs, on va en voir une qui est toujours vivante lorsqu'il va voir la mère supérieure.
Oui, elle est toujours vivante. Et elle dit oui, ta mère était une personne libre.
Voilà. C'est là-dessus donc va se faire la décision. Donc c'est en 1845 qu'il va être enfin reconnu comme un homme libre et qu'il va prendre comme nom de famille le prénom de sa mère, Madeleine. Je veux qu'on parle aussi des acteurs parce qu'il y en a un qui est extraordinaire, j'ai trouvé, c'est Vincent Macaigne qui joue le propriétaire justement, Joseph Flory. Il est visqueux à souhait.
Oui,
il est épouvantable. Alors, on a envie de le baffer du début à la fin.
Mais il est magnifique en même temps.
Ah ben, enfin, l'acteur est très bien.
Oui, oui. Mais il est dans une suffisance et accompagné de tous les propriétaires d'esclaves.
Mais il est dans sa logique.
Ah ben, tout à fait, oui. Et il a vraiment des intérêts à garder, à ce que ça ne change pas. Quoi.
Ouais. Et il y a cette scène extraordinaire à la fin, c'est qu'il y a le procès... finalement, va permettre à Fursi d'enfin voir reconnu sa liberté. Il vient le voir avant le jugement. Il lui dit, écoute, si tu gagnes, on pourrait s'associer.
Oui,
parce qu'il
oui.
voit l'intérêt, parce qu'il a aussi un savoir-faire. On n'en a pas parlé.
Oui.
C'est un remarquable confiseur.
C'est un confiseur et il monte son métier de confiseur pour renflouer son maître qui a fait un peu faillite.
Alors, Louis-Marie, malheureusement, vous n'avez pas pu voir le film.
Et non.
Peut-être un mot sur les acteurs qui sont dedans. Vincent Macaigne, on l'a vu dans d'autres films, c'est aujourd'hui quelqu'un sur qui le cinéma français s'appuie.
Il est capable de tout, de tous les personnages, de tous les rôles. Quel qu'il soit, il est toujours tout à fait crédible, vous me direz.
Un bon acteur, c'est ça qu'on le reconnaît.
Exactement.
Notamment l'acteur de composition.
Mais il y a Romain Duris, alors lui qui
est très bien aussi,
qui interprète l'avocat, hein, c'est Boucher, et l'actrice qui interprète la
Anna Girardot,
voilà
la maîtresse de Furcy.
C'est Anna Girardot, oui, qui est
elle, Virginie aussi, dans le film, son personnage.
Une remarquable actrice.
Ah oui.
Un qu'on voit moins aussi, mais dont on connaît bien le visage, c'est Frédéric Pierrot, qui joue le rôle de Moreau, et il est aussi un acteur plus discret, mais tout aussi remarquable que ceux dont on vient de parler.
Ça, c'est le genre d'acteur, souvent dans des seconds rôles, sur lesquels un cinéaste peut s'appuyer sans peur. Philippe Torreton, qui joue aussi, qui a un rôle plutôt mineur, mais qui joue très bien son personnage d'Aimé Bougevin, qui lui est plutôt un abolitionniste, qui n'empêche pas de faire des plaisanteries parfois un peu vaseuses.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire.
Non, mais ça, c'est intéressant aussi. Bon, on peut le dire. À un moment donné, Furcy est invité donc, par le personnage joué par Philippe Torreton. Et Philippe Torreton, qui joue Aimé Bougevin, le voit boire un verre de vin rouge et lui dit « Ah, Furcy, quand je te vois boire ce vin, ça me fait penser à un livre de Stendhal. » Alors, Furcy regarde comme ça, comprenant pas trop. Et l'épouse de Bougevin, Torreton, donc, lui dit « Le rouge est noir, Stendhal !» Et lui, ça le fait pas rire du tout, Furcy.
Effectivement, c'est très moyen.
Non, mais ça je pense que ce qu'Abd al-Malik, parce que ça paraît complètement anecdotique, c'est pour montrer qu'il y a des expressions qui passent dans le langage courant, des petites plaisanteries comme ça, qui ont un fond raciste. C'est ce qu'il a voulu dire.
Oui, et alors qu'il le soutenait.
Alors que lui ne l'est pas, manifestement.
Oui, mais bon, voilà, il ne peut pas s'empêcher de faire ce jeu de mots tout à fait déplacé.
Alors, il y a autre chose très intéressant, c'est que le rôle du président du tribunal, donc le procès qu'on voit à la fin, qui aboutit à la liberté pour Furcy, est tenu par François Sureau, qui est un écrivain bien connu et académicien français d'ailleurs.
Oui.
Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir un académicien français qui vient jouer pour votre film, mais il est avocat dans la vie.
Oui. Donc, il connaît très bien...
Non, mais il y a vraiment la caution juridique de ce film. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment un film très intéressant sur le plan juridique et sur l'évolution du droit en France.
Oui.
Et toutes les subtilités du droit.
Et ce n'est pas scolaire au sens un peu sec du mot. C'est une histoire qui a de la chair aussi. Et on voit que le président du tribunal applique rigoureusement la loi.
Voilà, exactement. Quelles que soient ses convictions personnelles.
Quelles que soient ses convictions.
C'est ce qu'on demande d'ailleurs à un président d'un tribunal.
Ben oui.
Ce qu'on peut dire aussi, pour ceux qui seraient peut-être un peu effrayés, « Ah, allez, encore un film sur l'esclavage, la culpabilité de l'Europe », c'est pas tout à fait ça.
Non.
Vraiment un film sur le destin d'un homme et sur un homme qui n'a jamais lâché.
Oui. Et sur la façon dont la défense permet une évolution de la pratique, en disant « Mais le code noir, non, c'est fini. Il est libre. »
Et ce sont des Blancs qui le défendent.
Et
pour
voir
ça aussi,
c'est ça.
C'est que c'est quand même c'est les gens qui sont épris de justice, quelle que soit leur couleur. Alors, je vais citer Abd al-Malik, vous l'avez fait déjà au début de votre intervention, Paul. Abd al-Malik a donné une interview récemment au Figaro. Voilà ce qu'il dit de son film. « Ce qui est important de dire d'abord, c'est que l'on ne demande à personne de s'excuser. » Et il ajoute « Je vais faire une analogie assez simple. Disons que le peuple français européen est une famille. Dans toutes les familles, il y a des non-dits, des secrets, et on sait que tôt ou tard, ils nous pètent à la gueule et c'est violent. » Donc si on a véritablement envie de faire peuple, si on a véritablement envie de faire France, l'idée n'est pas de s'excuser, c'est de comprendre qu'il y a plein de problématiques que nous vivons aujourd'hui qui sont les conséquences directes de l'esclavagisme, du colonialisme, et en remontant, sous-entendu le temps, on travaille à guérir, pas à guérir les descendants d'esclaves, mais à nous guérir tous en tant qu'êtres humains.
Oui. C'est ce qui est très fort dans le film. Vraiment, c'est le droit qui prime. Et ce n'est pas la demande d'excuses ou des choses comme ça.
De toute façon, c'est irréparable.
C'est inaliénable.
Voilà.
Et
puis,
c'est le droit qui est privilégié par rapport à la révolte aussi.
Oui, tout à fait. Oui. Il aurait pu fomenter un mouvement violent et tout ça. Non, il dit le droit.
Le droit, rien que le droit. Bon, voilà ce que nous pouvions vous dire sur
ce film.
Le mieux maintenant est de vous faire votre propre idée en allant le voir à l'ABC à Toulouse ou dans les salles de notre région où Furcine est libre et programmé. Je rappelle que vous pouvez échanger avec Paul et Louis-Marie mardi prochain, le 20 janvier, lors du ciné-parole qu'ils animent à l'ABC après la projection du film qui commence à 14h30. Dans quelques minutes, nous allons revenir sur The Road, la route, le film de Jolene Coates, d'après le roman éponyme de Cormac McCarthy. En attendant, nous allons faire une pause musicale dans cette émission en écoutant un extrait de la bande originale composée par Nick Cave et Warren Ellis. Ce morceau a pour titre The Far Road, la route lointaine.
Vivante Église, Éric Dupri.
Nous revoici pour la suite de Vivante Église. Je suis toujours en compagnie de Paul Dima, intervenant cinéma pour les Cotopaïs, les centres jésuites dans le sud-ouest, et de Louis-Marie Solaire, producteur et animateur de l'émission N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence. Comme je vous l'ai annoncé, cette seconde partie d'émission est consacrée au film La Route, réalisé en 2009 par un cinéaste australien, John Hillcoat, et sorti la même année en France. Il s'agit aussi de l'adaptation d'un livre, du roman The Road, qu'avait fait paraître en 2006 le grand écrivain Cormac McCarthy, écrivain américain, récompensé l'année suivante par le prix Pulitzer. C'est l'équivalent du prix Goncourt chez nous, hein, aux États-Unis, le prix Pulitzer. Et moi, j'avais lu personnellement ce roman peu après sa parution, bien avant de voir le film. Et c'est certainement un des livres qui m'a le plus remué, peut-être même le livre qui m'a le plus remué ces 20 ou 30 dernières années. On va me donner la parole à Louis-Marie, qui malheureusement n'a pas pu parler beaucoup en première partie de l'émission parce qu'il n'avait pas vu le film. Mais La Route, vous l'avez vu à sa sortie,
oui,
vous
oui,
l'avez
oui.
revu. Bon, moi, je suis curieux de savoir comment, à l'époque, et même en le revoyant, comment vous aviez reçu et perçu cette œuvre aussi singulière que terrifiante.
Ah oui, mais il faut dire qu'aussi, à l'époque, il y avait eu quelques films apocalyptiques et Mad Max était passé par là. Alors, le point de vue est pas le même. Dans Mad Max, même s'il s'agit de survivre dans un contexte où il n'y a plus grand-chose pour pouvoir vivre convenablement sur Terre, il y avait des différences parce qu'il continuait à avoir dans ce monde post-apocalyptique, je parle de Mad Max, de quoi se nourrir, alors que dans la route, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'animaux, il n'y a plus de végétation, et les derniers arbres sont en train de s'écrouler. Donc,
c'est un monde en cendres, oui. Où tout s'est effondré.
Et donc, ce qui reste pour certains des hommes, eh ben, ils deviennent cannibales. Quoi. Ils finissent par se bouffer entre eux.
Struggle for life.
Exactement. Et dans le bouquin de Cormac McCarthy, justement, son personnage, le personnage du père qu'on suit là, avec son fils.
Dans le livre, il ne dit pas le père et le fils, il les appelle l'homme et le petit.
Oui, c'est ça. Et l'homme dit donc « la nourriture est mon souci premier, toujours la nourriture, le froid et les chaussures ». Voilà.
Et oui, parce qu'il faut marcher.
Et oui, pour
rejoindre la côte. Sont sur la route.
C'est ça, c'est ce qui explique le titre du film et du livre, bien sûr. Et il entretient la relation avec son fils en lui racontant des histoires, en lui parlant de courage, de justice, même s'il n'en a que de vagues souvenirs. Et il y a autre chose qui est très précieux, alors c'est ça qui est le paradoxe, c'est les balles. Oui. Balle, il a une arme,
un pistolet, une
arme à feu,
un revolver.
Il n'a que 3 balles et il faut les économiser, s'en servir que quand c'est vraiment nécessaire.
Bah d'abord pour se défendre, parce que malheureusement, vous l'avez dit, il y a des bandes de cannibales, des hordes, je dis des bandes, ce sont des hordes même, sur lesquelles on peut tomber à tout moment, donc il faut pouvoir se défendre. Et puis la balle aussi, il la garde pour autre chose, et ça on peut peut-être le dire.
Oui, il la garde parce que ce qu'il redoute, c'est d'être capturé justement par un groupe de cannibales. Et pour éviter...
une mort horrible à son fils.
Il y a une balle qui est destinée à son fils, oui.
Et le petit le sait, et c'est un contrat entre eux. Oui. Il le sait que s'ils sont pris, son père lui tirera une balle dans la tête.
Oui, de façon à...
Et il y a une scène où on le voit, où il y a quelqu'un qui approche.
Ils sont pas loin de.
Et il met le canon du Colt sur la tempe de son fils.
Paul, alors vous avez découvert le film pour cette émission, tout récemment, vous ne l'aviez pas vu à l'époque. C'est tout frais pour vous. Comment vous avez reçu ? C'est un vrai choc, ce film.
Ah oui.
Surtout quand vous n'avez pas lu le livre non plus.
Non. Alors, le choc a été un peu atténué parce que je l'ai vu sur l'écran de mon ordinateur. Donc, ce n'est pas la même rapport à l'image que le grand écran. Ceci dit, c'est quand même pas apocalyptique au sens de... c'est pas sur l'apocalypse, mais on voit qu'il n'y a plus rien pour vivre. La mer, d'ailleurs, part...
On va y venir, ce personnage.
Bon, on reviendra.
Il est important.
Mais ce cataclysme qui s'est passé... oblige à un soutien très très fort entre le père et le fils.
C'est un film sur la paternité et sur la relation père-fils, entre autres.
Mais très fortement montré, c'est la trame de ce film. Alors il y a toutes les péripéties, les vivres vinrent à manquer, et il tombe sur un...
C'est un abri anti-atomique en fait.
Oui. Voilà, un abri...
Où il est bourré de victuailles.
Oui,
ils peuvent même se laver les dents, prendre une douche.
Ce qui leur permet de continuer la route en chargeant au maximum leur chariot de vivres pour continuer le chemin. Mais ils sont en même temps objets de convoitises et faut défendre le peu qu'on a pour survivre. Le but, c'est d'arriver à l'océan pour...
Bon, vers le sud. Le sud, toujours plus au sud. Où ils espèrent que peut-être il y aurait quelque chose qui aurait pu être préservé.
Oui. Alors,
le père essaie de s'en convaincre, sans y croire vraiment.
Oui. Et il y a quelque chose de l'histoire des États-Unis, là aussi. Il faut toujours marcher. Alors, c'est pas
Cap à l'Ouest. On peut revoir ça un peu. C'est pas la conquête de l'Ouest, c'est la conquête du Sud. Mais avant, il fallait aller toujours plus à l'Ouest. Là, c'est toujours plus au Sud.
Toujours plus au Sud, et pour vivre. Ou survivre.
Et en espérant trouver une terre, parce que c'était ça, les pionniers, trouver une terre qui serait accueillante et florissante.
C'est l'océan qui peut être nourrissant.
Ouais. Sauf que lorsqu'ils y arrivent, on voit que l'océan, il est aussi vide que le reste, aussi gris.
Tout à fait.
Il n'est plus bleu.
Non, il n'est plus bleu.
Les seules couleurs qu'on voit dans le film, ce sont les vêtements et malheureusement aussi le sang.
Oui.
C'est là qu'on voit la couleur. Alors, il y a un épisode absolument... c'est peut-être le plus terrifiant de tous, c'est qu'ils arrivent à un moment, il y a une maison désaffectée. Dès qu'ils voient une maison, évidemment, ils rentrent pour voir si par hasard, ils ne pourraient pas trouver quelque chose ou à manger des restes de vivres qui auraient été cachés quelque part, ou des vêtements, ou des chaussures, ou tout ce qui peut servir. Et ils descendent dans une cave. Nous, évidemment, on ne se rend pas compte dans le cinéma, mais on peut imaginer à leur tête qu'il y a une odeur un peu bizarre. Ils ouvrent cette cave, ils descendent, et en fait, il y a des gens dedans. C'est un garde-manger, un garde-manger humain, une bande de cannibales à constituer, et
ils
viennent se servir quand ils en ont besoin.
C'est terrible.
Ouais.
C'est terrible. Et ce qui est remarquable quand même dans ce film, c'est la façon dont John Hillcoat, le réalisateur, a réussi à restituer toute la sécheresse du livre. Et à l'écran, ça se sent aussi et ça se voit aussi. Alors, les décors, vous en avez parlé, toujours gris, toujours noir... À quelques exceptions près, les seules choses qu'on
et
voit...
Et qui s'effondrent, il y a des arbres qui tombent, il y a des bâtiments qui tombent.
C'est
des tremblements de terre aussi.
Les vêtements un peu, et surtout le sang.
Oui.
Le sang, lui, reste rouge, forcément.
Oui.
Et tout être humain est une menace potentielle.
Oui, d'ailleurs, la première question qu'ils posent en général lorsqu'ils rencontrent quelqu'un, ils disent « Qu'est-ce que vous mangez ?»
Qu'est-ce
que vous mangez ? Oui, oui, oui.
Parce qu'ils pensent que 9 fois sur 10, ça va être un cannibale. Quoi.
Mais oui.
En fait, c'est évidemment un drame d'anticipation, mais c'est aussi un récit qui parle de la continuité de la vie sur Terre. Mais voilà.
De la condition humaine, de manière très générale.
Et à quel prix ? Et puis évidemment sur la transmission de l'humanité, hein, des notions d'humanité, bien sûr. Et la civilisation alors que le monde est en train de mourir. Et ça transparaît, ça se sent à la fois dans le film. Et puis, il y a une belle distribution, à commencer par l'homme...
Viggo Mortensen, qui joue l'homme, le père.
Et qu'on avait croisé dans Le Seigneur des Anneaux et qui avait acquis...
À l'époque,
renommée internationale.
Il était très bankable,
cette renommée internationale. Et le voir, justement, dans le rôle de ce père, qui ça n'a rien à voir avec l'héroïque fantasy... Et le Seigneur des Anneaux donnait encore plus de relief à ce que présentait le film.
Ce qui est intéressant aussi dans ce film, c'est que dans un univers complètement bousculé, où la vie n'est plus possible, le père se rapproche de son fils pour le rendre autonome en lui racontant des histoires. C'est-à-dire que c'est le récit qui fait que l'enfant va être armé, parce que le père va décéder, va être armé pour continuer.
Il le prépare.
Il le prépare.
Parce qu'il sait qu'il ne va pas pouvoir vivre longtemps, lui,
oui.
Malheureusement.
Oui.
Parce qu'il faut imaginer que dans des conditions comme ça, l'espérance de vie est quand même, évidemment...
Oui, limitée.
Limitée. Donc, il sent sa fin prochaine et il veut préparer son fils à être seul.
Survivre
seul.
Alors, il y a une happy end...
D'une certaine façon.
D'une certaine façon.
Oui.
Mettons que la fin soit ouverte et on peut espérer que cette ouverture présage de quelque chose de meilleur que ce qu'on a vu jusqu'à présent.
Oui,
mais rien n'est sûr non plus.
Non plus, non.
Oui, parce qu'effectivement le père meurt et l'enfant va être recueilli par un couple qui a lui-même 2 enfants et même un chien.
Et même un chien.
Donc on a l'impression que la Sainte Famille est un peu reconstituée, voire l'Arche de Noé parce qu'il y a un chien. On voit dans le ciel, alors ça c'est pas dans le livre, je le précise, c'est pas dans le roman. À un moment, il trouve une boîte où il y a un scarabée qui est encore vivant.
Oui.
Au début, on dit, tiens, c'est un scarabée mort. Non, il est bien vivant, il bouge. Et on voit un oiseau, à un moment.
Oui.
Alors, on ne sait pas trop comment l'oiseau peut survivre dans ce monde, mais on voit un oiseau. Ça, ce n'est pas dans le roman. Donc, Hillcoat a sans doute voulu faire une fin, comme vous disiez, Louis-Marie, un peu plus ouverte que ne l'est le roman. Parce que dans le roman, on peut aussi se demander si la famille qu'il recueille est vraiment... munis de toutes les bonnes intentions.
Oui.
Là, on peut le penser. Ils ont l'air de le prendre sous leur aile. Et d'ailleurs, l'enfant leur dit, mais vous ne mangez pas les gens ? Non, on ne mange pas les gens. Vous êtes les gentils alors ? Oui, nous, on est les gentils. Ça, c'est le jeu de rôle entre le père et le fils, souvent.
Oui.
Il y a les méchants et nous, on est les gentils.
Oui.
Alors, vous avez parlé, ça, il faut qu'on y revienne, du personnage de la mère qu'on voit au début. Alors, au début, elle est enceinte. Elle n'a pas encore accouché. Elle va accoucher après la catastrophe. Dont nous ne savons rien, cette catastrophe. On ne sait pas quelle est l'origine de la catastrophe. Là aussi, on va en parler. Mais donc, la mère qui est jouée par la magnifique Charlize Theron...
C'est peut-être un moyen de la montrer plus souvent.
Oui,
d'utiliser le flashback.
Voilà, Charlize Theron, qui abandonne à un moment donné son mari et son fils. C'est-à-dire qu'elle part dans la nuit, se suicide, on peut
elle
dire
se suicide.
Elle ne veut plus lutter.
Oui.
Elle dit, de toute façon, on sera pris, ils vont me violer, ils vont nous tuer, ils vont nous manger.
Bon. Oui.
Et elle part... Et les personnages féminins de ce film sont pour la plupart, elle la première, mais aussi les autres qu'on peut croiser, notamment une espèce d'ogresse épouvantable lorsqu'il tombe sur cette maison où il y a ce garde-manger humain,
oui,
et on voit une femme, on a envie de se sauver en courant quand on la voit. Les personnages féminins sont assez négatifs dans l'ensemble.
Oui. Parce qu'il n'y a plus de vie possible, et la femme est particulièrement impactée.
C'est-à-dire que la femme est là pour pérenniser l'espèce, on peut le dire comme ça, entre autres. Et là, qui aurait envie, d'ailleurs c'est ce qu'elle dit, mais mettre au monde un enfant dans un monde comme ça...
C'est pas possible.
Vraiment, qu'est-ce qu'on a fait là? Qu'est-ce qu'on a fait là?
Et le père, lui... Ce qui explique son geste,
d'ailleurs. Oui. Tout à fait. Alors, je vais quand même préciser des choses concernant Cormac McCarthy, parce qu'au moment où il écrit ce livre, il vient d'être père à un âge très avancé, c'est-à-dire il a 70 ans. Et il s'est beaucoup inspiré de la relation qu'il commence à tisser avec cet enfant, dont il devrait plutôt être le grand-père que le père. Donc ça a beaucoup joué, évidemment, dans l'inspiration qu'il a pu avoir pour ce livre. Et autre chose qu'il faut savoir sur lui, c'est qu'il vivait à Santa Fe, où il est mort d'ailleurs, en 2023, sans avoir eu le prix Nobel qu'il aurait bien mérité, mais ça c'est une autre histoire. Et il fréquentait surtout des scientifiques. Et vous savez quelle ville est pas loin de Santa Fe ? Los Alamos,
oui, là,
c'est à 40 km.
Les fameuses expériences de nucléaire.
Donc il fréquentait, je suppose, des scientifiques qui devaient lui parler des capacités de destruction que l'humanité avait acquises aujourd'hui. Donc ça aussi, parce que le décor ressemble quand même, ça ressemble à un hiver nucléaire.
Ah oui.
À un hiver nucléaire. Même si c'est peut-être une catastrophe climatique, on ne sait pas trop, que ce soit dans le livre ou dans le film. On ne nous explique pas ce qui s'est passé.
Non.
C'est arrivé.
On voit la désolation.
Voilà. On ne nous explique pas ce qui s'est passé. Et qu'est-ce que nous montre le film? C'est que la catastrophe, elle a eu lieu bien avant, à partir du moment où l'homme est apparu sur Terre. Parce que qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre la nature humaine.
Oui.
Il nous montre la nature humaine, et c'est-à-dire l'incroyable violence dont l'homme est capable à l'égard de ses semblables. C'est ça la catastrophe qu'il nous montre.
Tout à fait. Tout à
Apocalypse,
fait.
Je rappelle que ça veut dire révélation, dévoilement.
Dévoilement.
Et ce film nous dévoile effectivement... ceci.
Ce que devient l'humain lorsqu'il n'a plus de raison d'espérer et de vivre. L'homme est un loup pour l'homme.
Oui. Un personnage dont nous n'avons pas parlé, qui est très important, ça arrive un petit peu après la moitié du film. Ils sont sur la route, l'homme et le petit, et à un moment donné, ils tombent sur quelqu'un qui marche devant eux. Alors évidemment, à chaque fois qu'on tombe, c'est ça qui est terrible, à chaque fois qu'on tombe sur un bipède, on est tout de suite méfiant. Ils arrivent à sa hauteur, et cet homme, enfin c'est... un homme très âgé, qui est joué par Robert Duvall. Alors, je ne sais pas si vous l'aviez reconnu. On ne le reconnaît pas.
Il est parfaitement maquillé. Il est méconnaissable.
Méconnaissable. Et il s'appelle Eli.
Oui.
Et ils vont entrer en relation avec lui. Ils vont même lui donner de quoi se restaurer, alors qu'en fait, il ne demandait pas grand-chose.
Oui.
On se demande d'ailleurs comment il peut être encore vivant, cet homme très âgé, tout seul, de quoi il vit. Et le dialogue entre eux est vraiment intéressant. Quand il parle du petit, il dit c'est le dernier dieu.
Oui.
Il parle de lui comme étant le dernier dieu.
Oui, il y a, un...
Non, parce que le fond derrière tout ça aussi, c'est quand même la Bible, beaucoup.
Oui, il y a un fond biblique, c'est clair.
Mais d'ailleurs, Ancien et Nouveau Testament.
D'ailleurs, dans le livre, dans un extrait que j'ai sous les yeux, il conclut, puisqu'il parle à la première personne, l'homme raconte ce qui se passe et à propos de cet enfant. Et il dit, cet enfant m'assure de mon existence. Et s'il n'est pas la parole de Dieu, c'est qu'il n'a jamais parlé.
C'est là qu'il lui dit, tu chemines avec le dernier dieu. Et en fait, c'est le protecteur.
Oui.
Parce qu'il est dépositaire de la seule espérance que peut avoir le père,
qui
sait qu'il va mourir.
Même si la perspective n'est pas enthousiasmante.
Oui, même s'il sait qu'il va mourir, il y a toujours l'espérance, finalement.
Oui, toujours l'espérance.
Sinon, il n'y a aucune raison de marcher dans cette désolation. On s'arrête, on s'assoit et on attend. Et puis on sait qu'il arrivera quelque chose de dramatique.
Il y a quelques phrases terribles prononcées par l'homme, le père. Donc, chaque jour est un mensonge et je meurs lentement. Et ça, ce n'est pas un mensonge. Il sait très bien, lui.
Oui, tout à fait.
Il raconte des histoires à son fils. Oui. Son fils, évidemment, comme tous les enfants, pose des questions. Et parfois, on ne sait pas à quoi répondre. Alors, dans une situation comme ça, qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Et vous parliez de la lutte pour la vie, parce que souvent, il y a des flashbacks. En fait, il rêve.
Oui.
Il rêve dans son sommeil, aux jours heureux avec
sa femme. Épouse.
Parce que ça commence, en plus, le film commence sur des images très rassurantes. On voit des fleurs, on voit un jardin. On ne s'attend pas du tout à ce qui va suivre. Et il dit aussi à un moment donné, lorsqu'on fait des cauchemars, on est encore en vie. C'est lorsqu'on commence à rêver de belles choses, il faut s'inquiéter. Vous aviez déjà réfléchi à ça?
Oui, c'est implacable.
Oui, c'est terrible.
Oui, et puis bon, Ellie, bon, c'est le... c'est vraiment une figure importante dans l'Ancien Testament, ce prophète, parce que c'est le prophète un peu des fins dernières. D'ailleurs, on ne sait pas comment il est mort. Il disparaît, il monte au ciel directement,
oui.
Élie. Hein.
Oui, oui, oui.
On peut même le voir comme une espèce de préfiguration du Baptiste, hein, de Jean-Baptiste.
Oui, 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 dans un chariot de feu.
Et en parlant de chariot, ce qui est aussi, je pense, très symbolique, c'est qu'au début du film, on les voit, ils poussent un caddie de supermarché.
Oui.
C'est vraiment le symbole de la société de consommation.
Ah, tout à fait.
Je pense que le message qu'il y a derrière, c'est que c'est peut-être cette société de consommation, consommer, 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 jusqu'à épuiser la Terre.
Oui. Et donc, est une vraie menace pour le genre humain.
Bon, nous allons devoir conclure cette émission, parce qu'on pourra en parler longtemps de ce film. Il y a tellement de choses à dire. Oui. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce numéro de Vivante Église. Je rappelle que le Ciné-Parole que vous animez en duo, comme d'habitude, mardi prochain à l'ABC, le 20 janvier, est consacré à Fursi, né libre, le film d'Abdelmalik. L'échange avec le public a lieu après la projection, qui commence à 14h30. Je rappelle aussi à nos auditeurs cinéphiles le rendez-vous qu'ils ont chaque mercredi à 19h, en direct sur Radio Présence, avec N'oubliez pas l'ouvreuse, la toujours très bonne émission de Louis-Marie Solaire. Ce numéro était animé par Éric Dupri, à la technique Jonathan Botello. Merci à tous d'être fidèles à l'écoute de Vivante Église. À la semaine prochaine.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00, 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.